Vous écoutez RTL.
Merci Vincent, et oui, c'est parti pour Allô, ici Bouvard avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour à vous.
Bonjour, comme chaque dimanche, je vous propose de compenser la disparition des emplois aidés par l'offre d'une petite assistance à votre sens critique et principalement en ce qui concerne ce qu'on nous présente comme allant très bien et qui peut-être ne fonctionne pas aussi bien qu'on le dit.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'avenir est-il à la téléconsultation ? Eh bien, je vais poser la question à un orfèvre, au docteur Claude Bonner, qui est le président d'Union Généraliste, la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur.
Bonjour Philippe Bouvard.
Est-ce que pour vous, c'est une grosse avancée, à la fois technique et sociale ?
C'est une avancée incontournable. Et c'est une avancée technique et une avancée sociale, oui.
La prise en charge par la Sécu des téléconsultations ne s'effectue quand même que si on réunit un certain nombre de conditions, hein.
Oui, bien sûr, il faut que ce soit le médecin traitant, mais pour les enfants, par exemple, c'est pas nécessaire.
Non, mais si, par exemple, on n'a pas de médecin référent ou qu'on est éloigné d'un cabinet médical, il n'y a pas de problème.
Tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est possible d'avoir une téléconsultation.
Honnêtement, et connaissant quand même le rôle du contact humain dans la visite médicale et le fait que le médecin peut toucher le malade, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va manquer au diagnostic ? Parce que qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui ? On demande au malade de décrire ce qui ne va pas chez lui, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr.
Vous me dites, par exemple, vous avez très mal au pied, voulez-vous mettre le doigt dessus ? Mais je vous dirais, j'ai pas le bras assez long.
Oui, mais si vous avez mal au pied, je vous fais marcher, je vous fais montrer où vous avez mal, et puis ça finira de toute façon par une radio ou une échographie que vous devrez aller faire.
Ah bah oui.
Ça, je peux le faire par téléconsultation.
Oui, ça, je n'exclurais pas les examens. Sauf que vous aurez peut-être quelques peines à émettre un diagnostic la première fois que vous aurez un contact lointain avec moi.
Avec vous, oui. C'est fait essentiellement pour ceux qui ont déjà vu le médecin, d'abord. Mais même quand ce n'est pas le cas, l'expérience montre qu'on arrive à faire du bon travail.
L'ordonnance viendra ensuite, elle viendra par mail, j'imagine.
Oui, elle viendra sur votre smartphone et vous pourrez l'imprimer.
Qu'est-ce que la Sécu remboursera ?
Elle rembourse l'acte du médecin, exactement au même tarif que si vous venez en consultation.
Et si j'ai besoin d'un spécialiste ?
Ah, si vous avez besoin d'un spécialiste, je peux vous y envoyer comme je le ferai en consultation. Mais une fois qu'on aura pris le rythme, on pourra même se connecter, vous, moi et le spécialiste, pour travailler ensemble. Et ça, c'est pas mal.
Ah oui, il y aura une télé-expertise.
Une téléconsultation avec le spécialiste et l'expertise, c'est encore autre chose. On lui pose une question, mais sans se connecter directement avec lui.
Ça ressemble à une téléconférence.
Mais c'est à peu près ça. C'est une téléconférence, mais où on se voit, où on s'examine, où on peut utiliser des outils comme le stéthoscope, un échographe, pour s'examiner.
Est-ce que vous refuserez certains patients parce qu'ils relèvent de certaines pathologies ?
Il y aura évidemment des situations où on ne pourra pas faire de téléconsultation, soit parce qu'on ne se comprend pas du tout, soit parce qu'il faut vraiment un toucher, ça arrive quand même. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même pour un bon pourcentage de consultations. Donc là, je refuserai, oui. Ou je dirais, non, là, il faut se voir.
Enfin, il manquera quand même quelque chose, c'est le contact humain. Ben, vous me direz que dans le même temps, vous ne risquerez plus les épidémies, hein ?
Ah mais moi je pense que dans quelques années, on trouvera aberrant d'aller chez le médecin dans la salle d'attente et de tousser dans sa salle d'attente quand on a une pathologie de type grippe.
Mais enfin, est-ce que vous ne fondiez pas votre diagnostic sur l'impression que vous faisiez par exemple un visage ? Or, le visage tel que on va le voir sur un ordinateur n'est pas le visage réel et complet.
Tout le monde, en fait, enfin, beaucoup de gens font des consultations, enfin des dialogues avec des proches par des outils de type Skype, etc. et s'en trouve très bien. Et on se rend compte qu'on arrive à avoir un excellent contact. Eh bien, c'est pareil en médecine. Et la psychiatrie, par exemple, marche bien en téléconsultation.
Enfin, quand vous avez affaire à un malade imaginaire, vous avez dans le silence de votre cabinet des moyens d'estimation que vous n'aurez pas avec l'informatique.
Oh, il n'y a pas de vrai malade imaginaire. Les imaginaires sont malades aussi.
Bien, docteur, vous faites également confiance à la téléopération ?
Pour le moment, c'est pas très au point, non. Non, mais ça s'est déjà fait, hein. Mais bientôt, on aura des petits outils, notamment des stéthoscopes, des otoscopes qu'on branchera sur le smartphone pour que toute la famille puisse être examinée un peu plus sérieusement que simplement par vision.
Et quand vous lui direz à votre patient « ouvrez la bouche, tirez la langue et que vous regarderez sa gorge », vous la verrez de la même façon que dans votre cabinet ?
Non, je la verrai mieux parce que je vais avoir une belle photo que je vais agrandir. L'image est meilleure par le smartphone qu'en réalité.
Naturellement, il y aura une aide à l'achat d'un ordinateur. L'État, je crois, alloue un peu plus de 500 euros. Mais il n'y a pas d'aide prévue pour le patient.
Non, il n'y a pas d'aide prévue pour le patient. C'est vrai. C'est vrai.
Bon, eh bien, écoutez, merci de nous avoir rassurés. Merci, docteur Bonner.
De rien.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'avion coûte-t-il vraiment moins cher que le train ? Eh ben oui. Ça n'a pas toujours été vrai. Bon, bien sûr, le low cost est né dans les nuages. Mais enfin, aujourd'hui, pour prendre un des trajets les plus empruntés, c'est-à-dire Paris-Nice ou Nice-Paris, eh bien, ça coûte beaucoup moins cher d'y aller en avion que d'y aller en train. Vous me direz, c'est pas très logique, parce que très longtemps, c'était le contraire. L'avion était le mode de déplacement des plus nantis. Ben, aujourd'hui, ça signifie pas que les plus nantis ne prennent pas le train, non. Ça signifie qu'ils ont beaucoup de mal à payer leur voyage et qu'ils s'étonnent de la différence. Or, il y a une raison en quelque sorte structurelle, c'est qu'un réseau ferré comme celui de la SNCF a besoin de rails, a besoin de caténaires, a besoin de passages à niveau, alors qu'un réseau comme celui d'Air France se contente d'utiliser l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est à tout le monde et ça coûte beaucoup moins cher. Et puis alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le prix d'un voyage dépend de son anticipation. Si par exemple, vous pouvez réserver votre place d'avion 30 semaines à l'avance, et de préférence au mois de novembre, qui est un des moins fréquentés, vous paierez beaucoup moins cher. Bon. Il y a aussi le fait que le low cost n'est pas cher comme ça, mais il convient d'y ajouter des bagages si vous en avez, et parce que en dehors de quelques bagages à main, on vous fera payer une redevance supplémentaire au prix du billet. Et aussi, il faudra payer le taxi ou le moyen de transport que vous emprunterez pour aller de la ville où vous vous trouvez à l'aéroport d'où vous allez décoller. Donc finalement, quand on fait les additions de part et d'autre, la différence est un peu moins sensible. Bon, c'est une réalité avec laquelle il faut désormais compter. Les pauvres vont se déplacer en avion et les riches seront fidèles au train et notamment à ces wagons-bars où, après leur avoir pris le maximum pour prix de leur billet, on leur demande de faire le ménage dans le wagon-bar.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'absentéisme au travail progresse pour la troisième année consécutive et ça coûte, excusez du peu, la bagatelle de 10 milliards d'euros à l'économie. Alors je vais demander son avis au professeur de management et également spécialiste du bien-être au travail, Dominique Steller. Bonjour monsieur le professeur.
Bonjour, merci à vous de cet entretien.
Bah, écoutez, j'avais envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce qui faisait défaut en ce cas précis ? C'est la bonne santé ou c'est le courage ?
Oh, il est fort probable que le courage soit premier.
Parce que 17 jours d'absence par an en moyenne, c'est considérable.
Tout à fait, tout à fait. Alors quand je parlais de courage à l'instant, je parlais plus d'un courage politique ou d'un courage sociétal qui permettrait de poser la question de qu'est-ce que c'est que l'économie et qu'est-ce que c'est que faire des affaires, plus que du courage de la personne qui, elle, est en arrêt.
Quel rôle joue l'insatisfaction dans ce triste constat ?
C'est certainement très fort, l'insatisfaction au travail. Est-ce qu'elle est directement liée au métier ou à l'emploi que la personne a directement ? Ou est-ce que c'est relié à la façon dont on a fini par façonner ce qu'est être au travail, qui en fait est devenu simplement aujourd'hui, pour reprendre une triste phrase célèbre, travailler plus pour gagner plus. Notre lieu de travail est devenu l'endroit dans lequel nous imaginons que nous allons gagner de l'argent pour avoir une chance de nous sentir bien dans un autre lieu que sera notre temps de détente ou notre temps de loisir, ce qui ne marche quasiment jamais.
Est-ce que cette insatisfaction n'est pas liée au fait qu'on n'ose pas, quand on n'est pas bien quelque part, aller ailleurs de peur du chômage ?
Ça, c'est certainement une pression importante, ce sentiment d'insécurité-là. Il y a deux ans maintenant, j'étais conférencier dans une conférence sur la plasturgie. À la fin de cette conférence, un monsieur vient me voir en me disant « Écoutez, j'aime bien ce que vous racontez, mais moi je fais une toute petite chose qui a peu d'intérêt. » Je lui dis « Bah, vous faites quoi ?» Il me dit « Bon, je dirige une entreprise qui fait des bouchons de bouteilles plastiques. » Alors j'enlève le bouchon de bouteille plastique que j'avais à la main, je retourne la bouteille, il voit l'eau s'écouler, il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Écoutez, vous me parlez de quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. » Donc la question que je lui posais à ce moment-là, c'est si même le dirigeant se dit « Ce que je fais n'est pas important et la seule chose qui compte, c'est que mon entreprise soit performante, c'est-à-dire qu'elle dégage un bénéfice. » Mais même si ce dirigeant donc n'est pas capable de voir la grandeur qu'il y a dans le produit fini qu'il est capable de faire, un bouchon de bouteille, comment un salarié qui vient tous les matins et qui va peut-être se retrouver à une chaîne de production peut-il trouver son intérêt et sa satisfaction ? C'est impossible.
Et puis il y a les disparités selon l'âge qui aboutit paradoxalement à ce que les entreprises fassent davantage confiance aux seniors qu'aux jeunes.
Alors ça, si c'était une affirmation de votre part, j'aimerais qu'elles fassent de plus en plus confiance aux seniors qu'aux jeunes, puisqu'on est vraiment dans une culture qui petit à petit s'est transformée et ne considère plus dans la seniorité tout son aspect de connaissance et de sagesse, mais y voit plutôt de l'obsolescence. Et on retrouve aujourd'hui des seniors qui sont en vraie grande difficulté parce que, je vais te dire de façon triviale, mais parce qu'un logiciel, une fois qu'il a plus d'un certain nombre d'années, n'est plus très efficace et on a envie de le changer par un nouveau logiciel. Et là, on voit bien encore une fois qu'on fonctionne à l'envers et qu'on oublie toute une partie de notre dimension humaine, toute une partie de nos puissances, et que ça aboutit malheureusement à des drames. Comment est-ce qu'on peut réinventer un nouveau monde du travail ? Comment est-ce qu'on réinvente une nouvelle économie qui permet à l'entreprise d'être réellement performante et de contribuer à la vie de la société ? Ça, c'est un challenge qu'on a devant nous.
Eh bien, peut-être avec des spécialistes comme vous. Merci Dominique Steller.
Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'État français est-il le premier héritier des défunts ? On peut se poser la question quand on regarde objectivement les chiffres et qu'on voit que la France est le troisième pays à ponctionner autant les défunts, et plus exactement leurs héritiers, après le Japon et après la Corée du Sud. Alors, vous me direz qu'il y a au moins un pays qui est très proche du nôtre, la Belgique, où il fait meilleur mourir que vivre, puisque on paye pas de droits de succession. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de Français, et parmi les plus nantis, vont vivre là-bas leur vieux jour avec cette arrière-pensée de ne pas ajouter à la tristesse de perdre un membre de sa famille, le chagrin de voir s'éloigner à jamais une partie du patrimoine. C'est quand même assez cher, hein, ça peut atteindre 45%. Et si on n'est pas le parent du décujus, comme disent les notaires, ça peut monter jusqu'à 60%. Vous voyez que l'État a quand même la main très lourde. Alors, je crois me souvenir qu'au temps de Sarkozy, on avait allégé un peu les petits héritages. On payait presque rien ou pas du tout. Et puis bon, Hollande est revenu, il a mis la pression et on a eu une alerte il y a quelques jours lorsqu'on a prêté à Emmanuel Macron l'intention d'augmenter encore les droits de succession. Alors, ou bien il s'est ravisé, ou bien il a démenti simplement, mais bon, pour l'instant, il n'en est plus question, et c'est vrai que ça suffit. Alors, bon, vous me direz, il y a quand même eu un petit progrès dans la mesure où les époux survivants ou les partenaires qui sont encore provisoirement de ce monde ne payent rien. Mais ça finit quand même par être lourd, hein. Et ça représente 12 milliards de recettes pour l'État. L'État qui prend beaucoup, surtout, c'est le cinquième impôt le plus rémunérateur. Et puis, il y a des abattements pour les enfants, il y a des abattements pour les petits-enfants, pour les neveux et nièces, alors là, très peu. Ben, il y a aussi le contrôle, bon, parce que l'État se donne d'abord 6 mois pour encaisser ce qu'il a calculé et qui lui est dû, et ensuite 6 ans pour aller contrôler que la déclaration d'héritage est bien conforme à la réalité. Et ensuite, ben, si c'est pas bon, les pénalités peuvent atteindre 80%. Vous voyez, on est quand même là dans des chiffres qui donnent le vertige. Surtout que, bon, on a perdu un être cher, on a du mal à s'en remettre, ça pose un tas de problèmes. Et puis, hop, le fisc arrive et il vous dit, finalement, l'héritier, c'est moi. Ben, ça fait mal. Alors évidemment, on avait dit que l'impôt sur les successions, c'est-à-dire sur les biens qu'un défunt laisse à sa mort, pourrait, bon, c'était une éventualité, gommer les inégalités à la naissance. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que un fils de milliardaire est toujours milliardaire et quelquefois encore davantage que ne l'était son papa. Alors, on cherche à comprendre.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors, je vous signale l'apparition d'un nouveau mot, c'est l'électronisme. Alors, c'est un néologisme, bien sûr. Il a été forgé en s'inspirant du concept de l'illettrisme. Vous savez, l'illettrisme, c'est des gens qui savent pas lire. Et bien là, c'est des gens qui ignorent tout dans le domaine de l'informatique. Ben, j'en connais même qui me touchent de très près, qui savent pas se servir d'un ordinateur, qui sont incapables de recevoir ou d'envoyer un mail. Pareil que un Français sur 5 est concerné. Un Français sur 5 souffre d'électronisme. Mais il y a un mystère pour moi, c'est que les 4 autres, j'arrive plus à les rencontrer.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Eh bien, pour terminer, je vous propose d'évoquer un véritable phénomène pâtissier que l'on a nommé le café gourmand et de le faire avec un grand chef, 2 fois étoilé, Michel Rostand. Bonjour Michel Rostand.
Bonjour Philippe, plaisir de vous entendre.
Alors, le café gourmand, vous faites partie des 45% de restaurateurs qui le proposent.
Oui, alors bon, le café gourmand, qu'est-ce que c'est ? C'est un café accompagné d'un mini-dessert. Hein. Ça permet de goûter quelques saveurs différentes, des goûts différents, plusieurs desserts.
Est-ce que ça permet pas surtout de faire prendre un dessert à des gens qui n'en prenaient plus ?
Ouais, c'est souvent... Peut-être. C'est-à-dire que on se donne une bonne conscience, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre un dessert, mais on prend juste une petite sucrerie avec le café. C'est ça, souvent. Hein.
Qu'est-ce que vous mettez dans un café gourmand ?
Bon, moi, suivant mes établissements, on met plusieurs choses. On met souvent un petit pot de chocolat, parce que le chocolat va très bien avec le café. Hein. Là, si vous voulez, là on vient de reprendre le Train Bleu, le mythique restaurant du Train Bleu à Gare de Lyon. Dans le café gourmand, on met un pot de chocolat, une tarte citron et un petit morceau de baba au rhum. Voilà. Dans un autre restaurant, l'absinthe, parce que on met café, uniquement un pot de chocolat. Voilà.
Il y a souvent une glace, hein.
Moi, je ne mets pas trop de glace avec, parce
non.
que... Non. Moi, je mets plutôt sous tout. Il y a toujours quelque chose à base de chocolat. Puis après, suivant le dessert du jour, c'est, je vous dis, c'est une petite tartelette, ou c'est un chou, ou autre chose comme ça.
Mais comment vous y retrouvez, puisque à l'arrivée, l'addition ne dépasse pas 10 euros?
Ouais, bah, disons, façon, je veux dire, c'est pas... On calcule pas, surtout, hein, nous on est en restauration, on n'est pas vendeur de café gourmand, hein, c'est quelque chose qu'on a en plus. Mais généralement, souvent, avec le café, on met une mignardise. Donc c'est une mignardise souvent un peu plus grosse, quoi.
Est-ce que pour vous, un bon repas se termine par une touche sucrée?
Ça dépend des goûts, parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas du tout le...
Parce qu'il y a des gastronomes qui préfèrent rester sur le goût du plat de résistance.
Oui, ou même du fromage. On a plein de clients qui prennent pas de dessert et qui prennent un fromage. Enfin, c'est une question de goût. On aime bien une petite saveur sucrée en fin de repas, soit avec le café, soit tout seul si on ne prend pas de café. Donc c'est pour ça, le café gourmand, ça permet d'avoir un petit échantillon.
Enfin, dernière question, peut-être la moins intelligente.
Ouais.
Est-ce que le café gourmand fait boire davantage de café?
Non, parce que souvent les clients sont habitués à boire souvent soit
parce que
un café,
j'imagine qu'il y a des clients qui commandent le café gourmand, qui mangent les pâtisseries mais qui ne boivent pas le café.
Ah si, ça quand même, ils boivent le café. Autrement, parce que bon, moi je sais, personnellement, moi je prends toujours deux cafés à midi, donc il y a des personnes qui prennent un café, donc quand on a un café gourmand, pas de café gourmand, moi je prends mes deux cafés, hein, donc un café. Donc je pense pas que ça influe beaucoup. Hein, je pense pas que ça influe beaucoup. Hein. Et après, donc, bon, si on veut des petites pâtisseries sans café, ben, ça c'est autre chose.
Finalement, c'est une jolie trouvaille pour le restaurateur, ouais, et pour le convive.
Oui, c'est une jolie trouvaille pour le convive, parce que souvent on arrive en fin de repas, on n'a pas envie de manger un grand dessert, donc on a envie de trois petites bouchées comme ça pour goûter. Puis je vous dis, c'est souvent une belle surprise, ça permet de goûter un petit dessert que le restaurateur a fait, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aussi, ça c'est intéressant.
Merci Michel Rostand.
Merci Philippe Bouvard, au plaisir de vous revoir et de vous entendre.
À dimanche prochain.
Eh bien écoutez, à dimanche prochain, Philippe, vous m'avez donné faim quand même, hein.
Oui, mais allez-y doucement.
Effectivement. Dans un instant, le grand jury présenté par Benjamin Sportuch. Chez Philippe, donc, à dimanche, 11h30 sur RTL.